domestication, deux points. C'est la transformation d'une espèce sauvage en espèce soumise, apte à une exploitation.
Et vous, marchez-vous dans le rang ?
Radio.
Radio Esperanza.
Esperanza.
Dans la ruche autogérée qu'est le village des possibles, chacun s'active, les derniers stands sont mis au point, chacun prépare sa présentation pour expliquer son projet au milieu de festivaliers qui vont passer du modèle dominant, de sortir du rang. Ne serions-nous donc pas que des moutons ? Non, non, répond le troupeau.
Pour ce quatrième bloc de Radio Esperanza, vous l'aurez compris, on fait du patchwork en effet. C'est la première en mode le festival on air. Et on a l'occasion d'aborder la domestication du mouton depuis l'espace culte. Alors en face de nous, on a trois Camille, parce qu'aujourd'hui on s'appellera tous Camille. En vrai, il y a Diego à la technique, il y a Sandy et Guillaume de culte, et Camille et Kiki. Pour ce faire, petit rappel du dico. La domestication d'une espèce animale ou végétale est l'acquisition, la perte ou le développement de caractères morphologiques, physiologiques ou comportementaux nouveaux et héréditaires, résultant d'une interaction prolongée ou d'un contrôle, voire d'une sélection délibérée de la part de la communauté humaine. Il s'agit donc aussi de la transformation d'une espèce sauvage en espèce soumise à une exploitation par l'homme en vue de lui fournir des produits. Des services. Je vous propose d'écouter Matmata, les moutons, ça y est, ils sont là.
No, 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 no,
Et c'était donc Matmata avec Les Moutons. Alors quand on a des chocobéennes par douzaine, ça nous attire, effectivement, c'est la société de consommation. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'être des moutons ? Bienvenue de retour de l'espace culte pour la domestication du mouton, où on est avec plusieurs Camilles qui font de la désobéissance ou pas. Pour aller plus loin, si on se rappelle que le mouton est lui-même en fait issu de la domestication du mouflon, nous sommes donc déjà quelque part dans une domestication au carré. Par extension, si on se rappelle que du fait que finalement de mouflon à mouton, donc on passe de Eiffel qui n'a rien à voir avec la tour du même nom, du thé, il n'y a qu'un saut, et je me fais contrôler parce qu'effectivement je ne parle pas assez bien, je vous prie de m'excuser, je reprends. Ma théorie, donc mouflon, FL, mouton, T, de FL à T, si on calcule chacune des lettres étant dans sa position, alors effectivement, le F étant à la 6e lettre, le L est à la 12e, lorsqu'on les additionne, nous arrivons à 6 plus 12 égale 18. Quant au T, qui n'aime pas la caféine, il est le 20e. De 18 à 20, il n'y a donc que 2 de différence. De 2 en 2, nous arrivons donc à FL, à T, à V, soit de mouflon à mouton, mouvons. Et oui, bougeons tout ensemble, ou en fringlish, on se bouge ou quoi ? Et ce qui serait peut-être bien, finalement, l'une des meilleures pistes anticapitalistes, anti-domestication, c'est de se bouger. Qu'en pensez-vous ? On se bouge ? Comment ? Pourquoi ? Avec qui ? Je vous propose qu'on en parle avec les Camilles au carré. À toi la parole.
Merci Kiki pour cette belle introduction. Alors, ben oui, tu dis, on se bouge ? Est-ce qu'on se bouge ? Eh ben, ceux qui se bougent, c'est notamment ceux qui pratiquent la désobéissance civile. On va en parler aujourd'hui avec Camille. Bonjour Camille.
Bonjour Camille.
Alors bon, on a dit, on va le dire, hein, Camille, c'est pas ton vrai prénom, mais tout le monde s'appelle Camille, histoire de ne pas se faire trop reconnaître et puis de rappeler que...
Et puis aussi pour pas prendre la voix, pas prendre la tête d'un mouvement qui doit rester citoyen et qui doit rester horizontal.
Alors, la désobéissance civile, c'est quelque chose que tu connais assez bien. Tu as participé à plusieurs actions depuis un an, peu en Belgique, un peu à la fronte en Allemagne, pas très loin de la Belgique non plus. Explique-nous un petit peu d'abord, c'est quoi la désobéissance civile ?
La désobéissance civile, donc c'est, comme son nom l'indique, désobéir à certaines lois. Parce qu'en fait, c'est pas parce que quelque chose est légal que c'est juste. Et du coup, c'est à un moment, reprendre le pouvoir en tant que citoyen. Après il y a plein de principes pour justement pas faire n'importe quoi non plus, mais qui sont plus des principes d'éthique et de collectif. Je sais pas si c'est clair.
Toi t'y es venu comment ?
Donc moi j'ai été invitée par des amis. Ça s'est fait un peu de bouche à oreille. Après ça peut arriver autrement, on peut s'inscrire sur des listes, etc. J'ai été invitée pour aller bloquer la construction du 127 bis, qui est un centre fermé où la Belgique a la spécificité d'enfermer des familles, donc des mineurs notamment.
C'est le centre qui est à côté de l'aéroport.
Hein. Absolument, ouais. Mmh. Ouais, c'est abominable.
Et donc il avait été décidé d'essayer de ralentir la construction, c'est ça ?
Ralentir, alors là c'était ma première action, donc j'étais pas forcément au courant de tous les détails. C'était clairement de ralentir une journée, empêcher une journée de construction et aussi de médiatiser parce qu'en fait, il n'y avait pas grand monde qui était au courant et c'était donc une action aussi médiatique. On était une centaine de personnes à bloquer ce chantier et il y a eu beaucoup de médias, notamment la RTBF qui s'est fait embarquer alors qu'elle avait sa carte de presse. Donc ça monte. C'est aussi en fait pour dénoncer et montrer, regardez en fait pourquoi est-ce que nous on se fait punir alors que c'est eux qui enferment des enfants, pourquoi c'est les journalistes qui se font embarquer alors qu'ils font leur métier, qui devraient être garantis par la loi, etc. Donc c'est aussi mettre en lumière les dysfonctionnements de la société.
Oui, ça avait fait un petit peu de bruit hein, cette histoire. Je rappelle l'histoire de l'interpellation des journalistes. Si je me souviens bien, un des journalistes avait réussi à faire un direct via une montre connectée depuis le camion de la police.
Hein, oui, c'est ça. Ils avaient pris tout le matériel de la RTBF, mais pas la montre connectée. Ouais. Donc il a fait son direct dans le fourgon.
Ils avaient oublié. Alors après, pour porter une cause, ce genre de scénario, pour vous, j'ai presque envie de dire, c'est presque idéal. Enfin, ça vous donne une voix, une tribune.
Oui et non, parce que ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu beaucoup de bruit aussi sur la enfin, c'était, y avait deux faces à cette médaille, quoi, parce qu'il y avait un côté où en fait, ça a pris le pas sur, en fait, il y a des gens qui se font enfermer pour des questions administratives, dans des conditions, de toute façon, on n'enferme pas quelqu'un juste parce qu'il n'a pas les bons papiers, enfin, priver quelqu'un de liberté, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave, donc à moins que cette personne ne soit un danger, quel est l'intérêt de faire ça ? D'un côté, oui, ça a donné beaucoup de lumière et ça a montré effectivement un énorme dysfonctionnement au niveau de la liberté de la presse. Mais voilà, c'est toujours faire attention. Nous, on fait pas mal d'actions qui sont assez médiatisées et c'est toujours faire attention à ne pas rendre le truc un peu fashion, cool, gros effet d'annonce, parce que sinon on nourrit une machine contre laquelle on se bat aussi d'effet d'annonce, qui fait qu'après, bah, est-ce que les politiques vont pas choisir ça comme argument pour aller encore plus loin dans le fascisme, etc. Voilà.
Donc il faut médiatiser, mais ouais, que la médiatisation ne devienne pas l'essentiel, quoi.
Il faut arriver à bien passer le message, notamment en étant en contact avec les premiers concernés, parce que nous, on n'est pas concernés par le fait de se faire enfermer. Et donc, c'est vraiment porter leur voix à eux, essayer d'inclure le plus possible leurs propos dans ce qu'on dit, quoi.
Alors, concernant la construction du centre du 127 bis, donc la construction a été terminée finalement.
Ouais.
Quelques familles ont déjà été enfermées, ouais. Il y a eu quelques expulsions. C'est aussi vivement critiqué, hein. Il y a eu des recours qui ont été déposés au niveau européen. Donc voilà, l'action n'a pas suffi à empêcher la construction.
Non.
Par contre, est-ce qu'il y a des exemples d'actions qui ont réussi à l'inverse ?
Je pense que c'est un gros deuil à faire en tant qu'activiste. C'est pas du tout que ça sert à rien, c'est que tu dois vraiment voir c'est quoi ton objectif. Et en fait, il y a aussi l'objectif de dire, de visibiliser. Et il n'y a que la masse qui va faire qu'on va réussir à faire bouger les choses. Et donc, c'est arriver à inviter un maximum les personnes. C'est vraiment un des principes de base de la désobéissance. C'est d'arriver à rendre une question populaire et donc d'utiliser les moyens proportionnels, en fait. Donc ça va être... tu vas pas aller faire exploser un truc pour une question qui n'a aucune popularité. Bon, déjà, moi, je ne fais pas exploser des trucs, mais... Et donc c'est arrivé, comment est-ce que tu fais pour donner une image qui rallie les gens et que les gens se sentent en fait en pouvoir? Nous, il y a toute cette question-là qui est vraiment très démocratique, qui est en fait pourquoi est-ce que c'est pas les citoyens qui peuvent dire ce qu'ils veulent ou pas. Je pense à Occupy for Climate, qui a eu lieu il y a quelques mois, où là on avait réussi à faire changer le MR d'avis sur les questions climatiques. Sur
La loi climat.
Ouais, sur le projet de la loi climat.
Tu peux rappeler Occupy for Climate, quelle était l'action? Il y avait une action dans la zone neutre, hein,
oui,
à la
absolument.
Chambre.
Donc la zone neutre, y avait eu une première action en début d'année au Parlement. Des gens étaient rentrés dans le Parlement pour faire une déclaration, pour inviter à la désobéissance civile, inviter à se rallier et rappeler qu'il n'y a pas de raison qu'on se laisse tuer par le capitalisme, en fait, qui est au profit de quelques personnes seulement. Et donc on est revenu, les gens sont revenus bloquer la rue de la loi devant le Parlement avec des personnalités, avec des personnes de plein de langues différentes. Et puis l'action a continué pendant 36 heures où on a été place du trône, où il y a eu des milliers de personnes qui sont venues pour soutenir, pour dire qu'elles voulaient une loi climat. Il y a eu du coup pas mal de médias qui ont été faire des sondages qui montraient qu'il y avait une énorme adhésion pour cette loi climat de la part des citoyens. Le MR a changé d'avis, avait dit que fallait pas de loi climat. Ils ont changé d'avis, mais ça n'a pas suffi à faire changer certains partis politiques flamands, malgré le fait que les jeunesses de ces partis-là leur ont demandé officiellement et ils ont fait de la résistance. Ce qui montre vraiment de nouveau le côté pas démocratique du fonctionnement.
Mais il n'y a pas eu de loi climat, mais l'action a quand même permis de porter le débat sur le climat à un niveau qui n'était même pas forcément espéré auparavant.
Absolument, et alors c'est la première fois de ce que je connais, en tout cas depuis longtemps, et clairement sur la question climatique, qu'il y a une action de désobéissance de cette ampleur-là. Et donc ça veut vraiment dire que le travail de sensibilisation au pouvoir citoyen, en fait, fait ses preuves, quoi. Enfin, il n'y a pas eu que des... Il n'y a pas eu que des retombées positives, dans le sens où on n'a pas pris en compte forcément tous les paramètres à ce moment-là. Notamment les paramètres antiracistes, etc. On ne s'est pas rendu compte. Après, il y a eu d'autres convergences qui ont été faites. C'était déjà un premier pas. Notamment avec les gilets jaunes, le fait de lier la crise climatique à la crise sociale, qui ont la même origine, en fait, qui est ce capitalisme pur et dur dégueulasse.
Et ça, donc ça, c'était en Belgique.
Ouais.
Il y a aussi eu de très grosses actions qui se sont déroulées en Allemagne, dans une mine de charbon près de Cologne.
Ouais.
L'action qui s'appelait Ende Gelände. Alors là, l'objectif, on reste purement sur le climat. L'idée étant d'arrêter l'extraction de charbon en Allemagne.
Oui.
Comment ça s'est déroulé?
Mais donc, il y a un... un regroupement de milliers de personnes qui ensuite s'en vont en quelques groupes. On appelle ça des doigts. Chaque finger, chaque doigt part avec un itinéraire différent, d'une manière différente, pour bloquer un endroit stratégique différent. Donc ça va être rentrer dans la mine, ça va être bloquer les rails de chemin de fer pour que le charbon ne puisse pas être amené à la centrale. Juste pour rappel, ce n'est pas que climatique, donc il y a clairement une question de pollution immense. Ils rasent des forêts, ils polluent l'air, etc. Mais aussi, ils exproprient des villages entiers. Donc c'est des gens qui perdent leur lieu de vie au profit de la production d'énergie. Pour sortir soi-disant du nucléaire, mais donc ce n'est pas une solution en fait. Et donc après il y a un faux argument de oui, mais bon, au moins on sort du nucléaire, mais non, c'est pas une solution, on ne m'apporte pas ça en me disant que c'est une solution. Donc il y a quand même une question sociale derrière. Donc pour en revenir à comment ça se passe, chacun part. Après, en fonction de la police, il faut à chaque fois se réadapter. Donc chaque finger est structuré en fait. Et donc voilà, il y a un peu différents plans.
Je te coupe, mais ouais, l'action était annoncée à la police ?
La police sait très bien qu'il y a cette action. L'avantage avec la police allemande, c'est que grosso modo, elle respecte pas mal ses propres règles. Mmh. Et du coup, tant qu'on ne fait rien d'illégal, ils peuvent rien faire. Donc se rassembler n'est pas illégal.
Mais l'action est illégale, par contre.
L'action est illégale. Et donc, ils peuvent nous arrêter au moment où on désobéit. Ouais. Mais tout avant, ils peuvent rien faire.
Ils ne peuvent pas empêcher la tenue du camp.
Exactement, ouais.
Et donc la police est là et vous essayez de rentrer dans la mine.
Oui, c'est ça. Donc la police est là, on essaie de rentrer dans la mine. Donc ça va être en essayant de trouver des moyens de ne pas la rencontrer ou alors en la dépassant, en l'affrontant, quoi.
Alors faut bien imaginer, la mine, c'est pas l'entrée d'une grotte qui descend sous terre.
Absolument.
C'est un immense espace à ciel ouvert.
Ouais, moi j'étais super choquée. Je m'imaginais vraiment le truc des sept nains, petite grotte comme ça. Pas du tout.
Non, c'est plus...
En fait, c'est un trou de 100 mètres de profondeur qui fait 10 mètres de long et 4 mètres de large. 10 km de long et 4 km de large. Donc c'est quand on arrive là-dedans, c'est vraiment. Mais c'est immonde, quoi. C'est vraiment un crime. Enfin, ça se voit contre tout ce qui vit, quoi. C'est pas juste pour les gens qui aiment s'habiller en vert et faire des câlins aux arbres. C'est vraiment horrible. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça à l'endroit où on vit? C'est horrible. Et ouais, donc c'est de la poussière partout, quoi.
Voilà. Alors c'est tellement grand que la police ne peut pas protéger, peut pas empêcher l'accès sur toute la zone.
Ouais, c'est ça. Donc il y a des endroits plus ou moins accessibles. Et du coup... eux, ils se postent en fonction de ce qu'ils imaginent qu'on va faire. Et quand même des ponts... Enfin, ouais, y a plein d'endroits par lesquels arriver, mais du coup, il y a des endroits où c'est plus compliqué. Et après, c'est pas mal à travers champs. Et donc là, ils font des cordons de flics, quoi. Ils sont des centaines et des centaines. Nous, on est des milliers et des milliers. Mmh. Et voilà. Mais non, ils ont un gros dispositif policier à cet endroit-là.
Et comment on force un cordon de policiers? C'est à celui qui pousse le plus fort?
Oui, disons qu'il y a des places avec des rôles différents. Quand t'es en première ligne, tu sais que tu vas prendre pour le groupe, quoi. Mmh. Mais bon, tu te rappelles pourquoi tu le fais, donc ça va. Donc ça veut dire... c'est vraiment jouer au chat et à la souris. En fait, moi, j'ai eu trop ce sentiment de jeu scout, d'énormes tracks où à la fin, il faut courir et essayer de pas se faire choper, mais tu sais très bien que tu vas quand même te faire choper, avec la différence que tu sais que tu peux... ton intégrité physique est beaucoup plus menacée et tu peux avoir un casier éventuellement. Mmh. Là, il y a un consensus où personne ne prend sa carte d'identité parce qu'ils ne peuvent pas vérifier pour 6000 personnes. Donc tu fonces, t'essayes d'éviter les flics, eux ils te courent après. Alors c'est génial, il y a des vidéos à voir qui sont trop marrantes où on voit les flics qui essayent d'attraper les gens et qui arrivent pas, ça fait très Laurel et Hardy, quoi. Après, quand ils arrivent à te choper, éventuellement tu te prends quelques coups. Et ça dépend vraiment de l'individu policier sur lequel tu tombes, qui a plus ou moins envie d'aller plus ou moins loin dans le fait de te frapper, quoi.
Oui, c'est ça, parce que y a l'idée de l'action à la base est non violente, mais vous ne maîtrisez pas la réponse qui va être
Absolument. Donnée
au-dessus.
Ouais. Absolument, et comme je le disais, y a des rôles différents. Et donc tout le monde n'est pas obligé de se retrouver en première ligne. Je parlais de ça en premier. Parce que voilà, je l'avais vécu, mais il y a des doigts beaucoup plus soft. Il y a aussi un doigt cette année pour les personnes justement qui ne pouvaient pas courir. Donc par exemple, je pense à des personnes âgées, des personnes invalides, moins valides, des enfants, enfin toutes ces personnes-là, et qui du coup ont fait une action géniale, autorisé une manifestation, qui ont juste arrêté de bouger à un moment Et du coup, ça a empêché la police de rejoindre les activistes désobéissants. Et donc, il y a toutes des choses comme ça aussi qui peuvent être faites. Il y a aussi, qui est vraiment des rôles mais cruciaux, c'est ceux qui restent sur le camp. Parce que donc, pendant les 3 jours où on marche, on parle, à l'île, il y a des gens qui font la nourriture, qui renvoient de la nourriture, des sacs de couchage, des matelas, etc. Une organisation de fous furieux, quoi, qui permet que, en fait, quand t'es activiste et que t'es déjà là à réfléchir à comment passer, à te remettre un petit peu des émotions ou quoi, bah en fait, tu dois pas en plus gérer tout ça, c'est crucial.
Oui, parce que c'est un camp de plusieurs milliers de personnes. Hein.
Ouais, absolument.
C'était combien, 3, 4 000 ou...
Cette année, je crois qu'on était 6 000.
6 000,
l'année
ouais,
passée, 7 ou 8 000.
Ouais.
Ouais.
C'est une sacrée logistique.
À fond. Ouais. Et tout est autogéré, donc, ouais. Donc c'est vachement bien.
D'autres actions sont prévues pour la rentrée, notamment en Belgique.
Alors ouais, celle dont j'avais parlé, c'était en Allemagne.
Oh, en Allemagne, pardon. Ouais.
Ça s'appelle Friedesheul. Il va y avoir une action, donc un peu le même délire que Endegelände, qui est beaucoup plus nouvelle, qui va aussi s'intéresser aux dominations. Donc l'organisation annonce que vraiment l'objectif est, au sein de l'organisation et de l'action, d'éviter les dominations et que ce soit plus accessible et juste. Même si les autres sont très bien. Et donc, ce sera contre le lobby agroalimentaire, en fait. Donc, voilà, on va aller. Il va y avoir un blocage important là-bas. Et c'est tout nouveau, donc il faut vraiment du monde. Il y a vraiment besoin. Et ça aura lieu le week-end du 20 septembre. Voilà.
C'est en Allemagne, c'est où?
C'est en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. J'ai plus le nom de la ville en tête, évidemment. Bon, il y aura des départs en bus depuis la Belgique. Pour les gens qui sont intéressés. Ça s'appelle Friedesheul pour ceux qui voudraient rejoindre.
Et est-ce que, bon, on parle beaucoup du climat, on parle des problèmes de la biodiversité, ça n'avance pas énormément. Est-ce que tu penses que ce genre d'action va se multiplier face au sentiment d'impuissance qu'on peut avoir?
Je pense que il n'y a aucun changement, aucune révolte qui s'est fait en un jour. Alors, ouais, c'est y a un processus en fait aussi de dénoncer, de rallier, de mobiliser. Je pense que là, on est là-dedans. J'espère qu'il y aura un changement, j'espère qu'il sera à temps, j'espère qu'il sera suffisamment grand. Mais de ce que me disent des anciens activistes ou ma mère, voilà, il y a une mobilisation qui est assez inédite. Donc à voir la forme que ça va prendre. Bah, je l'espère, je travaille pour et en même temps... Ouais, disons qu'il y a aussi de quel côté j'ai envie d'être de l'histoire. Je pense que c'est toujours une bonne question à se poser. Je pense qu'il y a souvent eu des grands sentiments d'impuissance, mais qui ont quand même fini par aboutir par des changements, quoi.
Et face à l'impuissance, il ne faut rien lâcher. Ce qui va nous donner l'occasion de faire une pause musicale. On écoute HK et les Saltimbanques. On lâche rien.
On lâche rien. On lâche rien. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 On lâche rien, 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 on lâche rien.
On est de retour, on vient d'écouter HK et les Saltimbanques, on lâche rien. On est toujours avec Camille qui participe à plusieurs actions de désobéissance civile. Donc Camille nous a expliqué un peu comment ça s'est passé sur des actions Occupy for Climate à Bruxelles, Ende Gelände en Allemagne. Tu décrivais un fonctionnement qui semblait assez bien rodé. Alors j'imagine que vous êtes un petit peu formé pour que tout se passe bien.
Pas du tout en fait.
D'accord.
On est tous des bénévoles. On est juste des citoyens un peu en colère. Ouais, clairement en colère. Qui avons envie d'être en même temps constructifs. Donc on se rallie. Excuse-moi, j'étais distraite. On propose par contre des formations justement parce que c'est pas facile en fait de trouver les canaux, de se sentir légitime parfois, tous et toutes, alors qu'on est. On commence, comme tu dis, à être bien rodé, on a toujours peur de ne pas être légitime, etc. Ouais, c'est aussi apprendre quelle est la juste place, la juste énergie, etc. Mais en général, c'est en collectif, il y a un consensus d'action de base. Voilà. Après, on était en train d'en discuter pendant la pause, vraiment des questions sur les sujets, comment est-ce que tu fais pour être juste, quoi. Il y a aussi le fait d'arriver à être ouvert et à... Ouais, à pas prendre la parole des autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que c'est un énorme travail qui est de se déconstruire soi-même. À partir du moment où on commence à comprendre que le système est un peu foireux, c'est-à-dire qu'en fait on en fait partie. Donc réagir, c'est en participant, c'est vraiment en participant, quoi.
Et quand tu dis être juste, tu veux dire sur la capacité à intégrer tout le monde dans les réseaux d'action, dans le militantisme. On va en reparler tout à l'heure, on va accueillir ici, il y a un collectif de gilets jaunes qui est présent sur le village des possibles. On va en parler avec eux un petit
peu. Trop cool, génial.
C'est aussi un sujet intéressant et qui pose beaucoup de questions en interne dans les milieux militants.
Ouais.
Je reviens aussi sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, c'est les violences, la question des violences policières.
Oui.
Donc bon, peut-être qu'en Allemagne ils sont un peu moins agressifs que dans d'autres, enfin ils respectent mieux leurs règles, tu disais, que dans d'autres pays. Est-ce que vous avez des solutions pour faire un peu descendre la tension, pour gérer cette agressivité?
Bon, y a pas mal de choses, hein. y a des collectifs absolument genre sublimissimes, de clowns notamment, de musiciens qui en fait vont, et c'est très efficace, se mettre devant les flics, mais pour les flics, taper sur quelqu'un qui a un nez rouge et qui fait des cumulets, c'est... Enfin, humainement, c'est pas possible de faire ça, je vais pas me mettre à attaquer quelqu'un qui fait des blagues gentilles. Y a des trucs comme ça, Après, ça dépend aussi des contextes, hein. Des fois, il faut... entre nous, on se met d'accord, est-ce qu'on veut se faire désarrêter ou pas, parce qu'il y a des risques liés au fait d'aller se mettre dans la mêlée et de tirer sur son pote, parce que c'est de la résistance. La résistance n'est pas permise face à la répression policière, donc même porter des masques à gaz ou des masques de plongée ou des choses comme ça peut être considéré comme, ils appellent ça une arme de défense, je crois. Donc c'est déjà pas légal. Donc, c'est genre, laissez-vous gazer, parce que sinon, en fait, on va aller un cran au-dessus. Voilà. Et après, c'est effectivement savoir dans quoi on met le doigt et se protéger, quoi.
Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, à chacun de voir jusqu'où il est prêt à pousser son engagement.
Et c'est ça, voilà. Il y a des milliards de formes d'engagement et il ne faut pas faire un truc avec lequel on n'est pas à l'aise, sinon on ne dure pas dans la longueur. Quoi. C'est tellement, en fait, ça prend aux tripes un peu ces questions-là et aussi l'aspect collectif prend aux tripes et du coup on a tendance à un peu aller plus loin de nos limites. Donc il faut vraiment savoir s'écouter et prendre soin de soi et des autres d'ailleurs. Il y a des gens aussi qui font la bouffe pour la lutte et du coup ils viennent après avec du thé à la sortie de prison ou des choses comme ça. Enfin, tout ça est ultra important quoi.
Merci beaucoup Camille d'être venue nous parler un peu de tout ça.
Avec plaisir.
La domestication, 2 points. C'est la transformation d'une espèce sauvage en espèce soumise, apte à une exploitation.
Et vous, marchez-vous dans le rang ?